On va entamer un petit échange donc à la suite de cette écoute de cette magnifique pièce qu'on a pu encore une fois apprécier et en plus dans un dispositif 5.1, c'était vraiment très émouvant. Donc Marie, cet échange en fait, il va être concentré sur une pratique d'enquête. Alors initialement, c'était plutôt une pratique d'enquête la mienne et la tienne, mais j'ai plutôt envie que tu nous parles de ta pratique d'enquête et des phases par lesquelles tu passes dans ton processus de création, c'est-à-dire comment tu mets en œuvre le dispositif qui va te permettre d'aller glaner les éléments, les matériaux qui vont construire ta dramaturgie. Voilà.
Alors y a une phase très simple qui est le repérage. On est loin du territoire et puis on se documente un peu hasardeusement avec ce grand oracle qui s'appelle Wikipédia, Internet, Google, et on cherche. Et puis après, on rentre en contact, on fait le contact avec le territoire, mais c'est encore très très hasardeux. Et puis je brosse rapidement les étapes. Et puis il va y avoir une phase de documentation. Et je pense, puisque Caroline arrive, je pense au fait une phase de documentation après avoir rencontré des gens, interviewé des gens. Et l'archive est très importante dans mon travail. Et dans cette phase de documentation, je vais essayer de rassembler un corpus d'archives. On en parlera aussi beaucoup avec Céline cet après-midi. Et je tiens à dire que je cherche que des choses qui sont endogènes. C'est-à-dire, je vais en arriver à quelque chose de très pratique, la musique, le piano qu'on entend. C'est Caroline qui joue cet air dans les couloirs des Glovettes du bâtiment. Et cette partition est issue de la chorale du lycée polonais. Alors oui, c'est subliminal. Mais je pense que moi, ça m'aide à faire mes choix et à faire du lien. Et là, je fais la figure de la couture, parce que c'est bien ce fil que peut-être on pourrait dérouler. Comment j'arrive à... On a l'image de... Alors, j'ai l'image de la figure de Marie qui défait les nœuds. Je ne connaissais pas cette Vierge. Qui surgit au XVIIe siècle et qui défait les nœuds. Et j'ai le sentiment d'essayer, je ne sais pas pourquoi, de défaire des nœuds en arrivant sur un espace que j'essaye de cerner à la mesure de mes pas, de contraindre, et que j'essaye de dénouer des choses dans la parole, dans les silences. C'est une tentative, peu importe si elle échoue ou si elle... voilà.
D'aménager des espaces de parole par ta pratique de collecte aussi, qui est une autre forme de l'enquête. Parce
Oui.
que, en fait, ce que tu m'as donné à entendre, ce sont ces échanges téléphoniques que tu mènes aussi avant ta première arrivée sur le territoire, où on sent que là, tu prépares, tu entres, tu commences à chercher des points d'appui. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ces personnes, points d'appui qui t'ont accompagné, en fait, qui ont été comme des collaborateurs pour toi dans ton processus?
Oui, alors quand on arrive sur un territoire, parce que je commence à avoir quelques documentaires en fait derrière moi, et puis ça s'apprend pas. Enfin, il y a quelques écoles de documentaires, mais j'ai appris par empirisme sur le tas. Et j'ai voilà. Et du coup, je trouve que moi, quand j'arrive sur un terrain, on nous guide vers des personnes ressources. Et après, j'essaye de prendre des chemins de traverse pour les éviter, parce que bien souvent, ces personnes ont soit un intérêt, soit on leur a glissé sur le dos ce rôle de porte-parole, de récit d'un territoire. Et donc tout de suite, je me demande pourquoi, pour qui n'entend-on pas, du coup? Et puis, une des clés, donc après, j'arrive avec un micro, donc ça déclenche autrement. Ça crée d'autres régimes d'énonciation et ça déclenche autrement les choses. J'imagine le paysage comme un grand piano qu'on peut activer. Le micro est un outil magique pour activer et voilà, faire la parole se déclencher. Et évidemment, il y a du bouche à oreille. J'essaye par intuition tantôt de le suivre, tantôt... Je vous dis de m'en détourner. et j'ai quelques clés, quelques formules magiques. Les chasseurs s'apparentent à une clé pour moi.
Hein?
Pour la compréhension d'un territoire, les chasseurs, je trouve que c'est une porte d'entrée.
Parce qu'ils arpentent beaucoup le territoire.
Ils arpentent et je vais me faire accueillir par le territoire, par les enfants du pays, si je suis amie avec les chasseurs.
D'accord. Et tu dis que tu vas chercher cette parole qu'on n'entend pas, vers laquelle on ne te dirige pas immédiatement. En fait, tu vas chercher des endroits d'inaudibilité.
Ouais. Je cherche, je pense, à faire surgir, à rendre visible, audible, ces endroits d'inaudibilité. C'est difficile à dire.
Mmh.
Inaudibilité. Ouais.
Et ces autres personnes ressources, moi, je pensais aussi à Didier Clarençon, qu'on entend beaucoup dans le documentaire, à Blandine, qui est guide. Comment ces personnes que tu rencontres aussi par téléphone, initialement, me semble-t-il, vont t'accompagner, t'aider à cibler peut-être des documents comment... C'est un autre aspect de ton enquête, ça.
Oui. Bon, Didier, c'est une personne clé parce que cette histoire surgit de mon envie réelle, dont j'en fais le récit au Talkie, de passer ma licence de radio amatrice. J'ai toujours pas fait. Donc voilà, mais de rentrer dans ce monde des radios amateurs avec vraiment une sorte d'urgence, sans être survivaliste, mais il y a cette quête, cette frontière. Voilà que je cherche ce danger qui se pointe et donc Didier, je cherche par tous les moyens à rentrer en contact avec le réseau des radios amateurs de l'Isère. Je n'y arrive pas, donc souvent c'est des hommes à minimum d'une cinquantaine d'années, mais souvent plus. À Rennes, je me suis quand même inscrite à Rennes dans le club des radios amateurs, il y avait une femme. Elle était contente de me voir apparaître. Voilà, donc Didier, je vais pas le lâcher parce que dès le début, c'est une clé, quoi. C'est une clé, on voit bien que la pièce, c'est une clé de voûte
dans la pièce.
Parce que c'est très concret. On va déplier une antenne, et ça me permet de construire quelque chose de plus poétique derrière. Mais au moins, il y a une situation concrète. Et du coup, lui, je vais pas le lâcher. En plus, il parle bien. Enfin voilà, c'est le radio amateur que je fais mon casting et je le garde, Didier.
Ok.
Et dommage, excusez, il est au Portugal, il part au Portugal aujourd'hui.
Est-ce que ce que tu dis de l'intérêt de ce personnage, c'est qu'en fait, il résonne évidemment qu'il fait résonner le passé, il fait résonner sa propre pratique et puis ce que tu entends toi comme la nécessité d'une résistance à venir, d'une projection en fait, donc tu réconcilies les temps, ou enfin je sais pas si tu les réconcilies, mais en tout cas tu fais entendre le dialogue entre les temps, et c'est en fait c'est presque caisse de résistance qui se prolonge dans cette idée là, non?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est comment rendre les choses concrètes aussi. Passer ma licence de radio amatrice, c'était me rendre utile, mais comme à l'origine, je travaille pour, j'ai pas choisi de faire de la radio, j'ai choisi de faire de la radio pour le service public. C'est une forme d'utilité. C'était dans le cahier des charges, éduquer, informer, divertir la France entière, tout le territoire. Voilà, de Romans en Isère à Châteaulin.
Et quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé des figures qui étaient pour toi comme des figures modèles, des figures dans lesquelles tu te reconnais, dans lesquelles tu reconnais ton geste. Tu veux bien nous les égrainer ? Elles sont jolies, ces figures. Tu en as énuméré une tout à l'heure, mais il y en a d'autres.
Alors, il y a Marie qui défait les nœuds, donc que j'ai rencontrée à Reims, à la cathédrale de Reims. Je ne suis pas spécialement croyante. Je cherche une sorte de foi ou de mysticisme. Je trouve que le micro et l'enregistreur sont des outils tellement puissants que ils nous permettent d'accéder à une sorte de profondeur un peu mystique. Mais je suis pas spécialement croyante, mais j'ai rencontré cette Marie qui défait les nœuds. Il y a elle. Quand je suis sur le terrain à hauteur de mes pas, j'adore franchir les seuils arriver chez Jean-Paul, que je ne connais pas, arriver chez Bernadette Baudouin en faisant juste toc, toc, toc. Et bah ça me rappelle la figure paternelle qui, mon père était VRP, il faisait du porte-à-porte, il chinait. Tout ce vocabulaire de, voilà, chiner. Mm-mm. Je chine la parole. Mm-mm. Et donc ma mère était mercière, et donc le fil. Enfin voilà, ça c'est des figures auxquelles je pense. La figure du collecteur traditionnel, vu que
tu files et tu couds.
Je file et je couds. Ouais. Et puis la figure du collecteur traditionnel donc je suis finistérienne et il y a une association, une des plus anciennes en France, qui collecte la mémoire orale. C'est d'Astum. C'est un des modèles de ces associations. Il y a le CMTRA à Lyon. Voilà, de collecte d'archives orales. Là, d'Astum, c'est principalement le chant et la musique. Donc, il y a vraiment cette figure du collecteur. Qu'est-ce que j'avais...
Qui va vers une volonté d'archivage, de patrimonialisation des mémoires.
Oui.
Patrimoine immatériel, quoi.
Oui.
Tu fais aussi quelque part, alors bon, on va risquer. Est-ce que les artistes font finalement œuvre de constitution de patrimoine immatériel? Parce que, je sais pas, c'est une question. Bon, je sais que c'est, voilà, que la question du contexte et de la pratique archivistique va être bien déployée cet après-midi. Ouais, ouais.
Mais d'ailleurs, c'est le moment où je vais lire
un petit extrait.
Parce qu'effectivement, ce travail accueilli par Villa Glovette a permis de constituer une archive. On s'est posé la question avec Agathe Chion de remettre cette archive à Villa Glovette. Et puis d'autres ont commencé à s'en emparer. Tout à l'heure, Mireille m'a dit « Ah, j'ai vu Léa Blin dans tel livre ». Donc, il y a un patrimoine qui, de fait, se constitue dès lors qu'on active ce geste de mise en recherche, dès lors qu'on se met en recherche. Et donc, en ça, tout à l'heure, il y aura Maryse Bazzoli, qui est une des sources, et qui va peut-être déposer, grâce à cette mise en résonance, à ce travail, qui va peut-être déposer ses archives moi je l'avais proposé au MRDI, mais toi tu disais aux archives de l'Isère, enfin voilà.
Donc c'est sûr qu'il y a... Vers une patrimonialisation, une constitution de fonds en fait.
Ouais.
Ben, je crois qu'à partir du moment où on décide, il y a l'intention de fixer sur un support, oui. Ben, même si là c'est immatériel, il y a quand même cette intention-là. Donc en fait, on fait archive. Mmh. Et après, l'intention de Marie de déposer ou pas ce matériau-là, de le laisser archiver dans son disque dur ou d'en faire quelque chose. Bon, là, il y a aussi tout le pan avec la recherche que vous produisez, tout ce qu'elle te remet aussi. Mais en fait, c'est quand même un matériau à caractère patrimonial, patrimoine immatériel. Il y a une espèce de glissement et une ouverture aussi de ce qu'est le patrimoine vers ces corpus-là. Et ça fait archive, voilà, malgré tout. Et il y a juste, toi, tu as enclenché la discussion avec Maryse. Moi, j'en parlerai rapidement, mais j'ai enclenché la discussion avec la famille Blanc, qui aussi est dans cette posture de vouloir déposer les témoignages oraux de leur père, qui pour l'instant est conservé dans la sphère privée. Je sens que... Ah non.
Il y a eu la provocation d'un geste par ton geste artistique, en fait.
Et moi, je peux peut-être compléter, juste parce que justement, on accueille souvent des artistes à Villa Glovette et on se rend compte que, enfin oui, c'est l'ADN de Villa Glovette de les accueillir pour que une création opère. Et en fait, les artistes, par leur présence, par leur discipline, par leurs outils, tendent un miroir au territoire inédit. C'est-à-dire que tout ce qui est collecté, activé, recherché, tout ce temps de présence et d'enquête, qu'elle soit plastique, visuelle, sonore ou de la pensée ou d'écriture, elle vient visibiliser quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas eu ni le temps d'être visibilisé ou qui peut-être a été invisibilisé par d'autres grands récits. Et c'est vrai que quand on invite Marie Guérin en résidence, on a un peu l'espoir que le territoire infuse et qu'elle sache lui rendre. On avait nous-mêmes, par exemple, on était à l'affût de l'histoire des Glovettes. Et personne n'était capable de nous livrer l'histoire des Glovettes. Et c'est finalement Marie Guérin, en résidence, par son enquête, qui nous permet enfin de connaître l'histoire de cette ferme. Donc ça, c'est extraordinaire pour nous.
Juste pour répondre à Céline de la Savia, à la maison de la radio, il y a une injonction contradictoire. Un des directeurs de France Culture disait « on fait de la radio au jour le jour » et je l'ai vécu, j'étais un de ces artisans qui fabriquait pour le flux. Donc chaque jour, on a la pendule sous les yeux et on jette tout ce qui a été consommé le jour J et puis on repense à l'émission du lendemain, etc. Quand on est en quotidienne, c'est un temps très très particulier. Et donc il y a cette injonction contradictoire, il y a ce temps du flux qui passe et qui remplace toujours l'émission passée. Et en même temps, dès qu'on est dans les cases documentaires, nécessairement cet outil qu'est l'enregistreur fixe. Donc je suis balancée entre, parce que voilà, j'ai été réalisatrice pour le flux et en même temps je fais du documentaire. Donc dans mes collègues, je reconnais ceux qui ont ce goût de l'archive. Et dans ces collègues, il y a cette voix que je vous ai faite écouter, qui est Gilbert-Maurice Duprez, qui, lui, faisait les couloirs de la maison de la radio pour récupérer tout ce qui était à la poubelle. Et ce qu'on faisait, l'expression consacrée, c'est « on fait tomber ». Puisqu'on était sur bande magnétique, enfin moi j'ai jamais connu le montage sur bande, mais on faisait tomber et puis ça partait à la poubelle, ce qui n'était pas utilisé. Donc il n'y a pas du tout de sens de la mémoire dans cette maison ronde qui tourne avec une pendule qui tourne, ça va très vite.
Et néanmoins il y a Lina et le dépôt.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que en fait là il y a des mémoires enchâssées, il y a des matériaux hybride dans ce documentaire et qui finissent par, au titre du dépôt légal, comme c'est une œuvre de l'esprit et que c'est produit par France Culture, forcément, ça devient une archive, mais radiophonique. Mais tout ton matériau qui, lui, est radiophonique juste parce que c'est une production, c'est une commande, et voilà. Mais tout ce matériau-là, brut, effectivement, c'est pas archivé par Radio France, donc c'est pas soumis au dépôt légal. Donc en fait, c'est vraiment ça se joue sur ta volonté d'en faire quelque chose, de le communiquer à la recherche d'en partie. Enfin voilà, donc oui. ça relève vraiment de ta propre volonté parce que, enfin à ma connaissance, tout le matériau brut Radio France, comme tu dis, c'est les rushs, ils sont pas conservés.
Voilà, et donc Gilbert-Maurice Duprez, dans les années 90, qui animait les nuits avant Weinstein de France Culture, lui, au contraire, se dit tous les techniciens qui partent en mission dans le monde entier ramènent des rushs et moi, je vais en faire des choses. Et c'est comme ça que surgit l'émission, ce sont des petites cartes postales sonores de 5 minutes, des paysages sonores qui sont diffusés à des heures de grande antenne sur France Culture dans les années 90. Et c'est juste en se disant, je profite de l'outil Radio France et de ses techniciens qui partent aux quatre coins du monde pour récupérer le matériau brut et en faire quelque chose. Voilà.
Du recyclage.
Du recyclage. Voilà.
Tu voudrais clôturer ce petit échange impromptu. On est dans les temps, c'est ça ? Ouais, des questions et peut-être à la fin, là, juste que tu voudras nous lire.
Au débat sur l'archive, ce qui m'a vraiment marqué ce matin, dont j'avais pas pris conscience, à la première écoute, c'est l'exercice démocratique, c'est-à-dire c'est le concert des voix à égalité. Et je pense qu'en ce moment-là, particulièrement dans les temps troublés que nous traversons, on a besoin que les voix soient mises au même niveau autour d'une un questionnement partagé qui serait ben voilà le last call. c'est très troublant comme alors je sais pas trop comment toi tu travailles ce principe d'égalité. C'est-à-dire que il y a plus d'intellectuels, il y a plus d'autochtones, il y a plus d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs puisqu'il y a aussi de l'archive qui est donnée en partage. C'est-à-dire ensemble on essaie de comprendre
bonjour
d'éclairer avec des points de vue divers, quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience traumatique, mais avec l'idée, enfin pour moi, il y a quelque chose de très émancipateur. Et je regrette que cette écoute collective, elle soit pas davantage partagée, qu'un certain nombre des protagonistes ne soient pas là aussi à ce moment-là, parce que ça fait grandir ensemble, en dignité. Voilà. Et moi, je trouve que ce type de, alors je sais pas comment qualifier ton travail, si docu sonore. Moi, je suis très mal à l'aise avec le vocable collecte. Ça me va pas. Je pense que ça va bien au-delà, c'est plus profond. Et c'est aussi beaucoup plus riche qu'une simple archive, ce qui est produit là. Comme parce que tout ça, ça, ouais, c'est polyphonique. Et en ce moment, vous voyez bien, qui maîtrise la parole dans notre société? Enfin, tout est saturé par une voix, hein, ou un type de voix en ce moment. Et je pense que c'est aussi éminemment politique.
Je suis entièrement d'accord. Et une de mes lectures à ce sujet-là, c'est Alice Zénitaire, Je suis une fille sans histoire. Et les régimes de parole, et moi je le défends coûte que coûte.
Une autre question ?
Oui. Moi j'avais plusieurs remarques et aussi une question. Je prends la casquette radio, petite radio associative dans le Royan Vercors, où nous aussi, ça m'a vachement éclairé ce que tu viens de dire sur le flux de la quotidienne. Nous on dit les sujets ils sont daubés. C'est encore pire. Donc tous les jours les sujets sont daubés et puis en même temps on a envie parallèlement de créer l'archive sonore du Royan Vercors et donc on a d'ailleurs une catégorie qui s'appelle le grenier à son sur notre site internet où on collecte tout ça et on archive tout ça. Et donc oui, là on est dans une mise en perspective de plein d'archives sur des archives. Et oui, moi il y avait une résonance avec la question politique actuelle de résistance et je m'attendais peut-être à le trouver un peu dans le documentaire, à me dire comment la question du fascisme et du coup de l'antifascisme résonne aujourd'hui dans le Vercors. Bon, on coupera ça au montage, mais hier je participais à une cartographie des mouvements fascistes sur l'Isère, le sud Grésivaudan, le Royan Vercors, pour comprendre comment s'organisent les idées fascistes, les groupuscules, tout ça, et comment nous, en tant qu'antifascistes, on peut résister, et notamment avec l'outil radio. Et du coup, voilà, je m'attendais à trouver un peu cette question plus avec un écho actuel de ça. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était que donc moi, je rencontre les anciens et anciennes du Royan pour sur leur récit de vie. Donc vraiment un prisme par la petite histoire de comprendre la grande histoire, des démarches assez habituelles en récit de vie, quoi. Et certaines me disent, une fois que les choses sont vécues, pourquoi les archiver ? Pourquoi en parler ? C'est vécu. Et du coup, moi, je me retrouve avec un discours à quel point c'est précieux, à quel point on a besoin que ce soit archivé, collecté, pour que moi, avec l'outil radio, je puisse le faire écouter à des jeunes aujourd'hui, que ça passe sur les ondes. Pour moi, c'est évident comme démarche. Et puis, je suis face à ces femmes de 90, 95 ans qui me racontent l'arrivée de la guerre à Saint-Jean-Royan, tout ça, et qui me disent « Mais c'est passé. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument figer ça ?» Et j'ai pas la réponse à ça, à part que je trouve ça précieux. Du coup, je voulais ouvrir cette question-là sur les archives avec ça.
Moi, j'aurais bien aimé avoir le point de vue des personnes qui évoluent dans la dimension histoire pour... si c'était possible de rebondir sur ta dernière question et sur la question des résonances actuelles de la résistance, ouais, il y a un avenir aussi, quoi.
Je vais être rapide sur ta première intervention et puis après il y aura Rémi Corman qui interviendra. Une personne de radio et j'ai l'impression qu'elle est mutique en fait, par essence. Et du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce documentaire, je veux pas faire discours. Donc ça effleure, mais je veux pas faire discours. Donc je souhaite parler d'une résistance qu'il faut qu'on monte. Je souhaite que ça s'entende en creux, mais pas que ça s'énonce frontalement. Parce que je sais pas faire, je me sens, enfin voilà, mais du coup c'est avec la voix des autres. Donc il y a Fanny Dujardin qui dépend d'un labo marseillais qui écrit une thèse qui s'appelle Écrire avec la voix des autres. Donc c'est polyphonique.
Philippe, Philippe Anus souhaite revenir.
En fait, c'est par rapport à la question du alors, je suis assez prudent sur le vocable, mais peu importe, ce qu'on pourrait appeler fascisation, voilà, du monde dans lequel on est en train de basculer et du rapport que, dans un moment comme ça, on partage autour d'une mémoire qui a à voir avec cette question. Je pensais, en vous écoutant, là, je pensais à Armand Gatti, donc un dramaturge qui, pour qui la question fasciste était, ne cessait de se réinventer, donc c'est le combat de sa vie. Et il a travaillé sur la fiche rouge. Et pendant 15 ans, il a tourné autour de cette question sans pouvoir aboutir à quelque chose, à une forme. Hein, disons, il n'a eu de cesse d'interroger cette question. Et il a une réflexion que je trouve très profonde autour de ce, comment la commémoration doit aller nécessairement au-delà du rituel, on va dire, installé, républicain, qui a tendance à refroidir l'événement. Et lui, il dit, mon travail à moi consiste à leur donner quelques instants de plus à vivre. Aux figures de la résistance. Et moi, je me dis, d'un seul coup, le visage de Léa Blin, il vient nous interpeller parce que elle est vivante. Et ton travail, Marie, et là, on apporte une réponse à une certaine vision, on va dire, républicaine, convenue de faire mémoire. Donc, c'est-à-dire de fossiliser des récits, de les incarner dans des monuments. Et là, on va au-delà de la monumentalisation. Et on travaille. C'est pour ça que c'est éminemment démocratique. Et si une réponse déjà, alors, ce qu'on pourrait appeler le fascisme qui vient. Simplement d'être réunis autour du concert des voix. Et j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment très, très proche de ce travail des dramaturges, des cinéastes.
Je suis obligée de lire. J'avais prévu des petites lectures, mais du coup, Armand Gatti, La fausse parole. J'ai besoin chaque nuit de devenir tous les hommes et tous les pays. Dès que l'ombre s'assemble, je m'absente de ma vie et ces écoutes de radio, dont je me suis fait cadeau, m'aident à conquérir des fatigues plus reposantes en vérité que tout sommeil. Chinois, japonais, arabes, espagnols, allemands, turcs, russes font au-dessus de moi leur petit bruit, m'encouragent à quitter mes enclos. Je saute le mur de l'existence individuelle par la parole d'autrui. Je goûte à de merveilleuses bamboches nocturnes où plus rien de moi ne m'espionne. C'est vers les 4 heures de la nuit que je vaque le plus exquisément. Mon corps, je l'ai précipité depuis longtemps dans un Niagara d'anéantissement et sa mort me vivifie. Qu'importe si par instant encore, telle une rageuse écume exigeant de parader sur les flots noirs de l'abîme, blanchoie son désir que je l'endors. Je suis tout au plaisir de me sentir délestée de cette créature étrangère abusive. Attroupées depuis le début de la nuit, toutes les paroles des hommes en guerre donnent l'assaut à ce gîte pour caillot sanglant qu'est le cœur. En foule, se proclamant puissant chef de peuple, se pressent des marmots braillards et bafouillants, batailleurs et balafrés. Chacun de ces bambins tire derrière lui son jouet de millions et millions d'hommes physiquement ou, ce qui est pis, mentalement tué. Inaltérablement vide, je deviens leur champ de bataille où ne plus pouvoir batailler, lieu absolu de tous les heurts, j'annule, trélisse, l'univers de heurts. Armand Gatti, poète, écouter la radio, parler une trentaine de langues, est issu du centre-Bretagne. Donc il a dû, ça doit être un natif, un bretonnant natif. Et puis il va partir à Paris et traduire, écouter la radio la nuit et traduire.
Une dernière intervention ou Rémi?
Alors je ne sais pas si j'ai eu la liberté d'intervenir parce qu'on m'a et sachant que c'était plutôt sur finalement à quoi sert l'histoire, c'est un peu ça la question finalement, qui est une très bonne question et je n'aurais pas de réponse d'historien. Après ces questions-là, je trouve de à quoi sert l'histoire, c'est ça dépend des qui dit ça et à quelle période. Alors là évidemment tu parlais, enfin l'exemple c'était pour des personnes qui sont âgées, etc. Il serait intéressant de savoir pourquoi elles nous disent ça en fait. Est-ce qu'elles pensent à une période en particulier dont elles veulent pas qu'on parle, Parce qu'on a souvent aussi l'effet inverse, je trouve, de contraire de personnes âgées qui veulent absolument parler. Moi, je pense à des périodes autres. Par exemple, si on est sur du post-conflit, on dit qu'on ne veut pas en parler juste après, mais en fait, il y a aussi l'effet inverse. On veut en parler, mais on ne sait pas si c'est le moment politique. Et là, on revient en politique, en fait. C'est-à-dire, qui dit que c'est pas le moment de l'histoire? Et bon, puisqu'on parle de choses politiques, par exemple, tous les débats en ce moment sur les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est aussi ça aussi, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est encore finalement le moment, est-ce qu'il faut pas passer à autre chose, mais qui dit ça en fait, c'est-à-dire c'est toujours le moment en fait de parler d'histoire. Après, c'est comment on en parle, comment c'est reçu, etc. C'est, enfin voilà. Après, la question de à quoi ça sert, vaste question. Bon, là, si on sort de l'histoire au sens scientifique, bah c'est d'abord un récit, et puis c'est ce qui fait société. On parle tout le temps d'histoire en fait, tous les jours, tout est histoire quoi. Voilà, un peu de mots.
Excusez-moi, j'ai fait un moment lynchéen, là. Dans ma tête, j'ai entendu Robin. Armand Robin, Armand Gatti, j'ai fait Armand Robin, quoi. Donc voilà, désolé, je parlais d'Armand Robin, l'écouteur de radio.
Oui, parce que c'est
ça. Ah non, mais j'ai entendu Robin.
Mais je crois qu'Armand Gatti va revenir cet après-midi parce que à chaque fois on en parle et c'est une figure qui te revient beaucoup. Voilà.
Ah, c'est pour ça alors.
Ouais.
Et je veux bien juste dire un truc, c'est qu'hier on s'est posé cette question aussi. Hein. On a dîné ensemble et on était avec nos jeunes stagiaires qui ont 25 ans. On rigolait en se disant, ils ont l'âge de Rémi et Léa, mais ils s'appellent Thomas et Eugénie. Et on se posait la question de comment légitimer ces collectes ou récupération, recyclage de la parole. En vrai, c'est pour les autres. C'est ça qu'il faut leur dire, en fait. C'est pas pour... c'est pour les autres. C'est pour les suivants. C'est pour ceux qui vont l'entendre. Et en fait, c'est aussi un exercice et peut-être un devoir de raconter. Voilà, c'est mon avis.
Moi, juste rapidement, parce que Philippe, tu parlais de la une espèce d'égalité dans les régimes de parole, ou en tout cas que ça donne à entendre différentes voix et sur un même plan d'égalité, un peu, bon, enfin pour schématiser. Mais finalement, j'ai l'impression que ça met le doigt, même si t'aimes pas le terme de collecte, on peut employer le terme de recueil, glanage, etc. Mais en tout cas, aller dans les plis du discours, finalement, comme là le fait Marie, ou comme peut le faire un chercheur en sciences sociales, moi j'ai l'impression que ça pointe aussi la spécificité de l'histoire orale et de ces enquêtes-là, qui au départ aussi sont nées pour, alors certes compléter des sources historiques, mais aussi pour donner la parole à des gens invisibilisés, soit par leur activité, parce que les résistants, clairement, ils pouvaient pas laisser des traces. C'était trop risqué, même s'il y en a qui l'ont fait. Et puis aussi, donner la parole à des gens qui sont pas en capacité de coucher par écrit leur récit, etc. Et je trouve que là, on est vraiment au cœur de cette spécificité-là de l'enquête orale, de l'archive orale. Et voilà, et je trouve que c'est ce qui est beau et c'est ce qu'on entend aussi dans ce récit-là qu'oral, c'est que ça touche à la spécificité de l'archive dite orale. Bon, c'était juste pour nourrir l'échange. Et par rapport à ta question, Céline, aussi, donner un discours, faire discours sur cette période contemporaine-là, il me semble, alors j'en parlerai, je vais pas m'étendre là, mais j'en parlerai, l'ouverture du documentaire de Marie, moi, il me semble que il résonne et qu'elle le fait résonner vraiment au plan sonore, là, je parle, dans le paysage, elle fait vraiment résonner le paysage et on entend l'écho du paysage, et il me semble qu'à cet endroit-là, dès le départ, elle ouvre deux temporalités, c'est-à-dire que à la fois, elle fait résonner par les balles et par le son, par les chiens, une temporalité, le passé, et en même temps, elle le met en résonance avec elle, ce qu'elle fait sur le terrain. Bon, j'y reviendrai en introduction de mon intervention, mais il me semble que si vraiment on s'attache non pas aux éléments de narration, mais uniquement à l'ouverture sonore du documentaire, pour moi, elle tisse quelque chose à cet endroit-là entre notre contemporanéité et le passé. Et du coup, chacun peut s'emparer de ça et de cette dimension potentiellement politique aussi, enfin historique, politique. Voilà, pour moi, cette ouverture juste au plan sonore, elle est très chargée. Et finalement, elle se passe de discours parce qu'elle est puissamment, je trouve, ancrée dans le contemporain. Et ça nous permet de tisser aussi ce fil politique, si on veut, ou d'engagement. Et voilà. Mais après, c'est mon ressenti de...
Oui, c'est une matérialité sonore qui, en effet, ouvre comme un vortex. On a le sentiment, en tant qu'auditeur, qu'on va entrer dans un vortex où des temps vont être mis ensemble, en fait. Je voudrais pas me tromper en convoquant Walter Benjamin, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il faut couper maintenant. Nous allons nous restaurer, nous réchauffer, et nous revenons à 14h. Pour accueillir Maryse Bazzoli en dialogue avec toi, Marie, à nouveau sur le pont, et les trésors de Maryse.
On rend l'antenne. Over.